Édouard Chouret, Les grands initiés, Moïse, chapitre 3. Le Sefer Béréchit. Moïse épousa Séphora, la fille de Jéthro, et séjourna de longues années auprès du sage de Madian. Grâce aux traductions éthiopiennes et chaldéennes qu'il trouva dans son temps, il put compléter et contrôler ce qu'il avait appris dans les sanctuaires égyptiens et tendre son regard sur les plus anciens cycles de l'humanité et le plonger par induction dans les horizons lointains de l'avenir. Ce fut chez Jéthro qu'il trouva deux livres de cosmogonie cité dans la Genèse, les guerres de Jéhovah et les générations d'Adam. Il s'abîma dans cette étude. Pour l'œuvre qu'il méditait, il fallait se cindre les reins. Avant lui, Rama, Krishna, Hermès, Zoroastre, Phoï avaient créé des religions pour les peuples. Moïse voulut créer un peuple pour la religion éternelle. À ce projet si hardi, si nouveau, si colossal, il fallait une base puissante. C'est pour cela que Moïse écrivit son Sefer Béréchit, son livre des principes, synthèse concentrée de la science passée et cadre de la science future, clé des mystères, flambeau des initiés, point de ralliement de toute la nation. Essayons de voir ce que fut la Genèse dans le cerveau de Moïse. Certes, là, elle irradiait une autre lumière. Elle embrassait des mondes autrement vastes que le monde enfantin et la petite terre qui nous apparaissent dans la traduction grecque des Septante ou dans la traduction latine de Saint Jérôme. L'exégèse biblique de ce siècle a mis à la mode cette idée que la Genèse n'est pas l'œuvre de Moïse, que même ce prophète pourrait bien n'avoir pas existé et n'être qu'un personnage purement légendaire, fabriqué 4 ou 5 siècles plus tard par le sacerdoce juif pour se donner une origine divine. La critique moderne fonde cette opinion sur la circonstance que la Genèse se compose de fragments divers, éloïstes et géovistes, cousus ensemble, et que sa rédaction actuelle est postérieure d'au moins 400 ans à l'époque où Israël sortit d'Égypte. Les faits établis par la critique moderne quant à l'époque des textes que nous possédons sont exacts. Les conclusions qu'elle en tire sont arbitraires et illogiques. De ce que l'éloïste et le géoviste ont écrit 400 ans après l'Exode, il ne s'ensuit pas qu'ils aient été les inventeurs de la Genèse et qu'ils n'aient pas travaillé sur un document antérieur, peut-être mal compris. De ce que le Pentateuque nous donne un récit légendaire de la vie de Moïse, il ne s'ensuit pas qu'il ne contient rien de vrai. La mission du prophète s'explique replacé dans son milieu natal, le temple solaire de Memphis. Enfin, les profondeurs mêmes de la Genèse ne se dévoilent qu'à la lueur des flambeaux arrachés à l'initiation d'Isis et d'Osiris. Une religion ne se constitue pas sans un initiateur. Les juges, les prophètes, toute l'histoire d'Israël prouve Moïse. Jésus même ne se conçoit pas sans lui. Or, la Genèse contient l'essence de la tradition moïsiaque. Quelques transformations qu'elle ait subies, la vénérable momie doit contenir sous la poussière des siècles et les bandelettes sacerdotales l'idée mère, la pensée vivante, le testament du prophète d'Israël. Israël gravite autour de Moïse, aussi sûrement, aussi fatalement que la terre tourne autour du soleil. Mais, cela posé, autre chose est de savoir quelles furent les idées mères de la Genèse, ce que Moïse a voulu léguer à la postérité dans ce testament secret du Sefer Bereshit. Le problème ne peut être résolu qu'au point de vue ésotérique et se pose ainsi. En sa qualité d'initié égyptien, l'intellectualité de Moïse devait être à la hauteur de la science égyptienne, qui admettait, comme la nôtre, l'immutabilité des lois de l'univers, le développement des mondes par évolution graduelle, et qui avait en outre, sur l'âme et la nature invisible, des notions étendues, précises, raisonnées. Si telle fut la science de Moïse, et comment le prêtre d'Osiris ne l'aurait-il pas vue? Comment la concilier avec les idées enfantines de la Genèse sur la création du monde et sur l'origine de l'homme? Cette histoire de la création qui, prise à la lettre, fait sourire un écolier de nos jours, ne cacherait-elle pas un profond sens symbolique, et n'y aurait-il pas une clé pour l'ouvrir? Ce sens, quel est-il? Cette clé, où la trouver? Cette clé se trouve, premièrement, dans la symbolique égyptienne, deuxièmement, dans celle de toutes les religions de l'ancien cycle, troisièmement, dans la synthèse de la doctrine des initiés, telle qu'elle résulte de la comparaison de l'enseignement ésotérique depuis l'Inde védique jusqu'aux initiés chrétiens des premiers siècles. Les prêtres de l'Égypte, nous disent les auteurs grecs, avaient trois manières d'exprimer leurs pensées. La première était claire et simple, la seconde symbolique et figurée, la troisième sacrée et hiéroglyphique. Le même mot prenait à leur gré le sens propre, figuré, ou transcendant. Tel était le génie de leur langue. Héraclite a parfaitement exprimé cette différence en la désignant par les épithètes de parlant, de signifiant et de cachant. Dans les sciences théogoniques et cosmogoniques, les prêtres égyptiens employèrent toujours la troisième manière d'écrire. Leur hiéroglyphe avait alors trois sens correspondants et distincts. Les deux derniers ne se pouvaient comprendre sans clé. Cette manière d'écrire, énigmatique et concentrée, tenait elle-même à un dogme fondamental de la doctrine d'Hermès, selon lequel une même loi régit le monde naturel, le monde humain et le monde divin. Cette langue, d'une concision prodigieuse, inintelligible au vulgaire, avait une singulière éloquence pour l'adepte, car, au moyen d'un seul signe, elle évoquait les principes, les causes et les effets qui, de la divinité, rayonnent dans la nature aveugle, dans la conscience humaine et dans le monde des purs esprits. Grâce à cette écriture, l'adepte embrassait les trois mondes d'un seul coup. Nul doute, étant donné l'éducation de Moïse, qu'il écrivit la Genèse en hiéroglyphe égyptien à trois sens. Il en confia les clés et l'explication orale à ses successeurs. Lorsque, au temps de Salomon, on traduisit la Genèse en caractère phénicien, lorsque, après la captivité de Babylone, Esdras la rédigea en caractère araméen chaldaïque, le sacerdoce juif ne maniait déjà plus ses clés que très imparfaitement. Quand vinrent finalement les traducteurs grecs de la Bible, ceux-ci n'avaient plus qu'une faible idée du sens ésotérique des textes. Saint Jérôme, malgré ses sérieuses intentions et son grand esprit, lorsqu'il fit sa traduction latine d'après le texte hébreu, ne put pénétrer jusqu'au sens primitif. Et l'eût-il fait, il aurait dû se taire. Donc, quand nous lisons la Genèse dans nos traductions, nous n'en avons que le sens primaire et inférieur. Bon gré mal gré, les exégètes et les théologiens eux-mêmes, orthodoxes ou libres penseurs, ne voient les textes hébraïques qu'à travers la Vulgate. Le sens comparatif et superlatif, qui est le sens profond et véritable, leur échappe. Il n'en demeure pas moins mystérieusement enfoui dans le texte hébreu, qui plonge par ses racines jusqu'à la langue sacrée des temples, refondue par Moïse, langue où chaque voyelle, chaque consonne avait un sens universel en rapport avec la valeur acoustique de la lettre et l'état d'âme de l'homme qui la produit. Pour les intuitifs, ce sens profond jaillit quelquefois comme une étincelle du texte. Pour les voyants, il reluit dans la structure phonétique des mots adoptés et créés par Moïse. Syllabe magique où l'initié d'Osiris coula sa pensée, comme un métal sonore dans un moule parfait. Par l'étude de ce phonétisme, qui porte l'empreinte de la langue sacrée des temples antiques, par les clés que nous fournit la Kabbale, et dont quelques-unes remontent jusqu'à Moïse, enfin, par l'ésotérisme comparé, il nous est permis aujourd'hui d'entrevoir et de reconstituer la genèse véritable. Ainsi, la pensée de Moïse sortira brillante comme l'or de la fournaise des siècles, des scories d'une théologie primaire et des cendres de la critique négative. Deux exemples vont mettre en pleine lumière ce qu'était la langue sacrée des temples antiques et comment les trois sens se correspondent dans les symboles de l'Égypte et dans ceux de la Genèse. Sur une foule de monuments égyptiens, on voit une femme couronnée, tenant d'une main la croix Ansé, symbole de la vie éternelle, de l'autre un sceptre à fleur de lotus, symbole de l'initiation. C'est la déesse Isis. Or, Isis a trois sens différents. Au propre, elle typifie la femme, et par suite, le genre féminin universel. Au comparatif, elle personnifie l'ensemble de la nature terrestre avec toutes ses puissances conceptives. Au superlatif, elle symbolise la nature céleste et invisible, l'élément propre des âmes et des esprits, la lumière spirituelle et intelligible par elle-même, qui seule confère l'initiation. Le symbole qui correspond à Isis dans le texte de la Genèse et dans l'intellectualité judéo-chrétienne, c'est Eve, Eva, la femme éternelle. Cette Ève n'est pas seulement la femme d'Adam, elle est encore l'épouse de Dieu. Elle constitue les trois quarts de son essence. Car le nom de l'Éternel Yahvé, dont nous avons fait improprement Jéhovah ou Yahvé, se compose du préfixe Yod et du nom d'Eve. Le grand prêtre de Jérusalem prononçait une fois par an le nom divin en l'énonçant, lettre par lettre, de la manière suivante. Yod et Vo-E. La première exprimait la pensée divine et les sciences théogoniques. Les trois lettres du nom d'Ève exprimaient les trois ordres de la nature. Et par suite, les sciences cosmogoniques, psychiques et physiques qui y correspondent. L'ineffable renferme en son sein profond l'éternel masculin et l'éternel féminin. Leur union indissoluble fait sa puissance et son mystère. Voilà ce que Moïse, ennemi juré de toute image de la divinité, ne disait pas au peuple, mais ce qu'il a consigné figurativement dans la structure du nom divin en l'expliquant à ses adeptes. Ainsi, la nature voilée dans le culte judaïque se cache dans le nom même de Dieu. L'épouse d'Adam, la femme curieuse, coupable et charmante, nous révèle ses affinités profondes avec l'Isis terrestre, et divine, la mère des dieux qui montre dans son sein profond des tourbillons d'âmes et d'astres. Autre exemple. Un personnage qui joue un grand rôle dans l'histoire d'Adam et d'Ève, c'est le serpent. La Genèse l'appelle Nahash. Or, que signifiait le serpent pour les temples antiques? Les mystères de l'Inde, de l'Égypte et de la Grèce répondent d'une seule voix. Le serpent, disposé en cercle, signifie la vie universelle dont l'agent magique est la lumière astrale. Dans un sens plus profond encore, Nahash veut dire la force qui met cette vie en mouvement, l'attraction de soi pour soi, en laquelle Geoffroy Saint-Hilaire voyait la raison de la gravitation universelle. Les Grecs l'appelaient Eros, l'amour ou le désir. Appliquez maintenant ces deux sens à l'histoire d'Adam, d'Ève et du serpent, et vous verrez que la chute du premier couple, le fameux péché originel, devient tout à coup le vaste enroulement de la nature divine, universelle, avec ses règnes, ses genres, ses espèces, dans le cercle formidable et inéluctable de la vie. Ces deux exemples nous ont permis de jeter un premier coup d'œil dans les profondeurs de la Genèse moïsiaque. Déjà, nous entrevoyons ce qu'était la cosmogonie pour un initié antique et ce qui la distinguait d'une cosmogonie dans le sens moderne. Pour la science moderne, la cosmogonie se réduit à une cosmographie. On y trouvera la description d'une portion de l'univers visible avec une étude sur l'enchaînement des causes et des effets physiques dans une sphère donnée. Ce sera, par exemple, le système du monde de Laplace, où la formation de notre système solaire est devinée par son fonctionnement actuel et déduite de la seule matière en mouvement, ce qui est une pure hypothèse. Ce sera encore l'histoire de la Terre, dont les couches superposées du sol sont les témoins irréfutables. La science antique n'ignorait pas ce développement de l'univers visible. Et si elle avait sur lui des notions moins précises que la science moderne, elle en avait formulé intuitivement les lois générales. Mais ce n'était là pour les singes de l'Inde et de l'Égypte que l'aspect extérieur du monde, son mouvement réflexe. Ils en cherchaient l'explication dans son aspect intérieur, dans son mouvement direct et originel. Ils le trouvaient dans un autre ordre de loi qui se révèle à notre intelligence. Pour la science antique, l'univers sans bornes n'était pas une matière morte, réjouie par des lois mécaniques, mais un tout vivant, doué d'une intelligence, d'une âme et d'une volonté. Ce grand animal sacré avait des organes sans nombre, correspondant à ses facultés infinies. Comme dans le corps humain, les mouvements résultent de l'âme qui pense, de la volonté qui agit. Ainsi, aux yeux de la science antique, l'ordre visible de l'univers n'était que la répercussion d'un ordre invisible. C'est-à-dire des forces cosmogoniques et des monades spirituelles, règnes, genres, espèces, qui, par leur perpétuelle involution dans la matière, produisent l'évolution de la vie. Au lieu que la science moderne ne considère que le dehors, l'écorce de l'univers, la science des temples antiques avait pour but d'en révéler le dedans, d'en découvrir les rouages sacrés. Elle ne tirait pas l'intelligence de la matière, mais la matière de l'intelligence. Elle ne faisait pas naître l'univers de la danse aveugle des atomes, mais elle générait les atomes par les vibrations de l'âme universelle. En un mot, elle procédait en cercle concentrique de l'universel au particulier, de l'invisible au visible, de l'esprit pur à la substance organisée, de Dieu à l'homme. cet ordre descendant des forces et âmes inversement proportionnels à l'ordre ascendant de la vie et des corps était l'ontologie ou la science des principes intelligibles et faisait le fondement de la cosmogonie. Toutes les grandes initiations de l'Inde, de l'Égypte, de la Judée et de la Grèce, celles de Krishna, d'Hermès, de Moïse et d'Orphée, ont connu, sous des formes diverses, cet ordre des principes, des puissances, des âmes, des générations qui descendent de la cause première, du Père ineffable. L'ordre descendant des incarnations est simultané de l'ordre ascendant des vies, et seul il le fait comprendre. L'involution produit l'évolution et l'explique. En Grèce, les temples mâles et doriens, ceux de Jupiter et d'Apollon, surtout celui de Delphes, furent les seuls qui possédèrent à fond l'ordre descendant. Les temples ioniens ou féminins ne le connurent qu'imparfaitement. Toute la civilisation grecque, étant ionienne, la science et l'ordre dorien s'y voilèrent de plus en plus. Mais il n'en est pas moins incontestable que ces grands initiateurs, ces héros et ces philosophes, d'Orphée à Pythagore, de Pythagore à Platon et de celui-ci aux Alexandrins, relèvent de cet ordre. Tous, ils reconnurent Hermès pour maître. Revenons à la Genèse. Dans la pensée de Moïse, cet autre fils d'Hermès, les 10 premiers chapitres de la Genèse constituaient une véritable ontologie selon l'ordre et la filiation des principes. Tout ce qui commence doit finir. La Genèse raconte à la fois l'évolution dans le temps et la création dans l'éternité, la seule digne de Dieu. Je me réserve de donner dans le livre de Pythagore un tableau vivant de la théogonie et de la cosmogonie ésotérique, dans un cadre moins abstrait que celui de Moïse et plus voisin de l'esprit moderne. Malgré la forme polythéiste, malgré l'extrême diversité des symboles, le sens de cette cosmogonie pythagoricienne, selon l'initiation orphique et les sanctuaires d'Apollon, sera identique par le fond à celle du prophète d'Israël. Chez Pythagore, elle sera comme éclairée par son complément naturel, la doctrine de l'âme et son évolution. On l'enseignait dans les sanctuaires grecs, sous les symboles du mythe de Perséphone. On l'appelait aussi l'histoire terrestre et céleste de Psyché. Cette histoire, qui correspond à ce que le christianisme appelle la rédemption, manque complètement dans l'Ancien Testament. Non que Moïse et les prophètes l'ignorassent, mais ils la jugeaient trop haute pour l'enseignement populaire et la réservaient à la tradition orale des initiés. La divine Psyché ne restera si longtemps cachée sous les symboles hermétiques d'Israël que pour se personnifier dans l'apparition éthérée et lumineuse du Christ. Quant à la cosmogonie de Moïse, elle a la proconcision du génie sémitique et la précision mathématique du génie égyptien. Le style du récit rappelle les figures qui revêtent l'intérieur des tombeaux des rois. Droites, sèches et sévères, elles renferment dans leur nudité dure un mystère impénétrable. L'ensemble fait penser à une construction cyclopéenne. Mais ça et là, comme un jet de lave entre les blocs géants, la pensée de Moïse jaillit avec l'impétuosité du feu initial entre les versets tremblants des traducteurs. Dans les premiers chapitres d'une incomparable grandeur, on sent passer le souffle d'Élohim qui tourne une à une les lourdes pages de l'univers. Avant de les quitter, jetons encore un coup d'œil sur quelques-uns de ces puissants hiéroglyphes composés par le prophète du Sinaï. Comme la porte d'un temple souverain, chacun d'eux s'ouvre sur une galerie de vérités occultes qui éclairent de leurs lampes immobiles la série des mondes et des temps. Essayons d'y pénétrer avec les clés de l'initiation. Tâchons de voir ces symboles étranges, ces formules magiques dans leur puissance évocatrice, telles que les villes initiées d'Osiris, alors qu'elles sortirent en lettres de feu de la fournaise de sa pensée. Dans une crypte du temple de Jéthro, Moïse, assis sur un sarcophage, médite seul. Murs et pilastres sont couverts d'hiéroglyphes et de peintures qui représentent les noms et les figures des dieux de tous les peuples de la terre. Ces symboles résument l'histoire des cycles évanouis et prédisent les cycles futurs. Une lampe de naphte posée à terre éclaire faiblement ces signes dont chacun lui parle sa langue. Mais déjà, il ne voit plus rien du monde extérieur. Il cherche en lui-même le verbe de son livre, la figure de son œuvre, la parole qui sera l'action. La lampe s'est éteinte, mais devant son œil intérieur, dans la nuit de la crypte, flamboie ce nom. Yévé. La première lettre I, à la couleur blanche de la lumière. Les trois autres brillent comme un feu changeant où roulent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quelle vie étrange dans ses caractères! Dans la lettre initiale, Moïse perçoit le principe masculin, Osiris, l'esprit créateur par excellence, dans Eve, la faculté conceptive, l'Isis céleste qui en fait partie. Ainsi, les facultés divines, qui renferment en puissance tous les mondes, se déploient et s'ordonnent dans le sein du Dieu. Par leur union parfaite, le Père et la Mère ineffables forment le Fils, le Verbe vivant qui crée l'univers. Voilà le mystère des mystères, fermé pour les sens, mais qui parle par le signe de l'Éternel, comme l'Esprit parle à l'Esprit. Et le tétragramme sacré brille d'une lumière toujours plus intense. Moïse en voit jaillir par grande fulguration les trois mondes, tous les règnes de la nature et l'ordre sublime des sciences. Alors, son œil ardent se concentre sur le signe masculin de l'esprit créateur. C'est lui qui l'invoque pour descendre l'ordre des créations, épuiser dans la volonté souveraine la force d'accomplir sa création à lui après avoir contemplé l'œuvre de l'Éternel. Et voici que dans les ténèbres de la crypte reluit l'autre nom divin, Elohim. Il signifie pour l'initié lui, les dieux, le dieu des dieux. Ce n'est plus l'être replié en lui-même et dans l'absolu, mais le Seigneur des mondes, dont la pensée s'épanouit en millions d'étoiles, sphères mobiles de flottants univers. En principe, Dieu créa les cieux et la terre. Mais ces cieux ne furent d'abord que la pensée du temps et de l'espace sans borne, habitée par le vide et le silence. Et le souffle de Dieu se mouvait sur la face de l'abîme. Qu'est-ce qui va sortir d'abord de son sein? Un soleil? Une terre? Une débuleuse? Une substance quelconque de ce monde visible? Non. Ce qui naquit d'abord de lui, ce fut Aour, la lumière. Mais cette lumière n'est pas la lumière physique, c'est la lumière intelligible, né du tressaillement de l'Isis céleste dans le sein de l'infini. Âme universelle, lumière astrale, substance qui fait les âmes et où elles viennent éclore comme dans un fluide éthéré. Élément subtil, par qui la pensée se transmet à d'infinies distances. Lumière divine, antérieure et postérieure à celle de tous les soleils. D'abord, elle s'épand dans l'infini. C'est le puissant respire du lieu. Puis, elle revient sur elle-même d'un mouvement d'amour, profond, aspire de l'éternel. Dans les ondes du divin éther, palpitent, comme sous un voile translucide, les formes astrales des mondes et des êtres. Et tout cela se résume, pour le mage voyant, dans les paroles qu'il prononce et qui reluisent dans les ténèbres, en caractères étincelants. Ruah Elohim Aou. Que la lumière soit et la lumière fut. Le souffle d'Elohim est la lumière. Du sein de cette lumière primitive, immatérielle, jaillissent les six premiers jours de la création, c'est-à-dire les semences, les principes, les formes, les âmes de vie de toutes choses. C'est l'univers en puissance avant la lettre et selon l'esprit. Et quel est le dernier mot de la création? La formule qui résume l'être en acte, le verbe vivant, en qui apparaît la pensée première et dernière de l'être absolu. C'est Adam, Ève, l'homme-femme. Ce symbole ne représente nullement, comme on l'enseigne dans nos églises et comme le croient nos exégètes, le premier couple humain de notre terre, mais Dieu en acte dans l'univers et le genre humain typifié. L'humanité universelle à travers tous les cieux. Dieu créa l'homme à son image, il le créa mâle et femelle. Ce couple divin est le verbe universel pour lequel Yahvé manifeste sa propre nature à travers les mondes. La sphère qu'il habite primitivement et que Moïse embrasse de la pensée puissante n'est pas le jardin de l'Éden, le légendaire paradis terrestre, mais la sphère temporelle sans borne de Zoroastre, la terre supérieure de Platon, le royaume céleste universel, Éden, Adama, substance de toutes les terres. Mais quelle sera l'évolution de l'humanité dans le temps et dans l'espace? Moïse la contemple sous une forme concentrée dans l'histoire de la chute. Dans la Genèse, Psyché, l'âme humaine, s'appelle Nisha, autre nom d'Ève. Sa patrie est Shamaïm, le ciel. Elle y vit heureuse dans les terres divins, mais sans connaissance d'elle-même. Elle jouit du ciel sans le comprendre. Car pour le comprendre, il faut l'avoir oublié et puis s'en ressouvenir. Elle ne saura que par la souffrance. Elle ne comprendra que par la chute. Et quelle chute, autrement profonde et tragique que celle de la Bible enfantine que nous lisons. Attirée vers le gouffre ténébreux par le désir de la connaissance, Aïcha se laisse tomber. Elle cesse d'être l'âme pure n'ayant qu'un corps sidéral et vivant du divin éther. Elle se revêt d'un corps matériel et entre dans le cercle des générations. Et ces incarnations ne sont pas une, mais cent, mais mille, en des corps de plus en plus grossiers selon les astres qu'elle habite. Elle descend de monde en monde, elle descend et elle oublie. Un voile noir couvre son œil intérieur, noyer la conscience divine, obscurcit le souvenir du ciel dans l'épais tissu de la matière. Pâle comme une espérance perdue, un faible ressouvenir de son ancien bonheur luit en elle. De cette étincelle, elle devra renaître et se régénérer elle-même. Oui, Aïcha vit encore dans ce couple nu qui gît sans défense sur une terre sauvage, sous un ciel ennemi où gronde la foudre. Le paradis perdu, c'est l'immensité du ciel voilé derrière et devant elle. Moïse contemple ainsi les générations d'Adam dans l'univers. Il considère ensuite les destinées de l'homme sur la terre. Il voit les siècles passés et le présent, dans l'Aïcha terrestre, dans l'âme de l'humanité, la conscience de Dieu avait relié jadis avec le feu d'Agni au pays de Kouch, sur les versants de l'Himalaya. Mais la voilà prête à s'éteindre dans l'idolâtrie, sous d'infernales passions, sous la tyrannie assyrienne, parmi les peuples dissociés et les dieux qui s'entre-dévorent. Moïse se jure à lui-même de la réveiller en établissant le culte d'Élohim. L'humanité collective, comme l'homme individuel, devrait être l'image du Yahvé. Mais où trouver le peuple qui l'incarnera et qui sera le verbe vivant de l'humanité? Alors, Moïse, ayant conçu son livre et son œuvre, ayant sondé les ténèbres de l'âme humaine, déclare la guerre à l'Ève terrestre, à la nature faible et corrompue. Pour la combattre et la redresser, il invoque l'Esprit, le feu originaire et tout-puissant, Yahvé, à la source duquel il vient de remonter. Il sent que ses effluves l'embrasent et le trempent comme l'acier. Son nom est Volonté. Et dans le silence noir de la crypte, Moïse entend une voix. Elle sort des profondeurs de sa conscience, elle vibre comme une lumière, et dit « Va à la montagne de Dieu, vers Horeb. »